Bienvenue, bienvenue à cette rencontre dans le cadre du Festival des idées. Je suis Sarah Guindani, je suis directrice scientifique adjointe du Collège d'études mondiales, qui est une jeune institution qui a été fondée en 2011 par le sociologue Michel Viviorca, qui est actuellement dirigée par l'économiste Olivier Bouin. Et donc, c'est une institution qui se ferait un chemin dans le sillon de l'expérience de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme en matière d'internationalisation de la recherche. Donc, ça pour le pratique. Et pour le côté scientifique, le Collège d'études mondiales a apporté un certain renouveau dans l'approche des sciences sociales et humaines, surtout par rapport à une approche critique qu'il a proposé concernant les études globales. Donc, d'un côté, le collège a essayé de justement mouvoir une critique aux études globales entendues comme une sorte de décalage, décentrement du savoir, de l'épistémologie qui est toujours incarnée, qui a été souvent incarnée en tout cas par un savoir occidental. Et de l'autre côté, il a conçu les études globales comme des études en mesure de faire travailler justement les différentes disciplines en sciences humaines et sociales de manière complexe, interdisciplinaire, en sachant que tout savoir est toujours fini et qu'il y a besoin justement pour devenir quelque chose qui parle dans ce monde complexe, toujours un dialogue avec les autres savoirs. C'est ce que en pratique, on a essayé de faire aussi au collège, en essayant de créer ce dialogue et d'un point de vue international entre les chercheurs. On peut bénéficier de beaucoup de bourses de mobilité grâce aussi à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme qui nous permettent d'inviter, de recevoir des jeunes chercheurs post-doc, des chercheurs plus avancés, confirmés à travers des invitations de 2A et d'accueillir aussi des projets spécifiques qui sont accueillis pendant 4 ans avec des chaires, notamment ici on a un de nos titulaires de chaire, Vinh Kim Nguyen, qui dirige la chaire d'anthropologie de la santé mondiale. Donc, on s'est associé au Festival des idées qui propose cette année donc, le thème l'amour du risque parce que beaucoup de nos chaires en fait, portent aussi sur la question du risque. Bon, on avait la chaire de Rushbeck, évidemment, qui a été un grand penseur du risque, mais on a aussi beaucoup d'autres chaires travaillant sur des thématiques liées à la santé, à l'écologie, à la finance, aux questions de géopolitique qui aussi travaille sur le risque. Donc aujourd'hui, on accueille ici quelque chose qui est plus lié au monde de la santé, au risque en santé. Et donc on a un dialogue entre Laure Hatch et Vinh Kim Nguyen sur le thème du risque. Le titre de la rencontre, l'éducation du désir. Donc, je vous cède la parole. Hein. C'est une vaste question. Et bon, je ne sais pas si on pourra la traiter en une heure. En tout cas, on va sûrement poser des bases. Merci beaucoup.
Merci d'être présent aujourd'hui. Je vais être très bref. Hein. Je vais laisser les intervenants commencer la conférence. Vous êtes là pour ça. Juste un mot sur le Festival des Idées Paris, qui est un festival, là, c'est la deuxième édition, qui a commencé mardi dernier, qui dure 5 jours. Donc, il propose plus de 50 événements dans tout Paris, en Seine-Saint-Denis, qui est aussi bien sur des campus ou dans des lieux, voilà, comme ici à la FMSH. Je remercie à la FMSH d'organiser cet événement dans le cadre du Festival des idées autour de l'amour du risque, et également sur plein de lieux culturels, donc au Centre Pompidou, la Maison des Métallos, des théâtres, voilà, dans Paris. Le but du Festival des idées, c'est de créer justement ce qui vient d'être dit, du dialogue, de la conversation, de l'échange, et de faire se rencontrer des savoirs qui parfois ne se rencontrent pas, ou enfin parfois on pense un peu de manière trop cloisonnée, voilà, avec les mathématiques, la sociologie, la littérature. Bon, le Festival des idées essaye un petit peu de décloisonner tout ça et de créer de nouvelles formes de savoir. Voilà, c'est un pari qu'on fait. Après, voilà, ben, je suis sûr que ça va être très intéressant aujourd'hui d'écouter et de découvrir justement ce qui va en ressortir. Ben voilà, enfin je ne vais pas être plus long que ça. Je cède la parole donc aux deux intervenants pour cette rencontre. Merci beaucoup.
Donc bonjour. Donc je voulais juste revenir sur un point. C'est l'objet d'abord, l'objet de notre présence, l'objet de cette rencontre, qui est non pas un séminaire mais un débat. Et donc l'objet est d'échanger avec vous de la polémique qu'a suscité la dernière campagne de prévention de lutte contre le VIH. Cette campagne a été orchestrée par le ministère de la Santé et Santé publique France, qui est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la Santé. Avant de rentrer dans le débat et dans le vif du sujet, je voudrais juste rappeler que le VIH est un virus qui se contracte entre autres par un rapport sexuel non protégé. Et si le VIH n'est pas diagnostiqué rapidement, on passe au stade SIDA qui condamne la personne. Dès lors, il est de la responsabilité politique de poursuivre ses efforts d'information, de prévention auprès de la population afin qu'elle se protège du VIH, ce qui passe par l'organisation de campagnes de prévention. Juste un chiffre. En France, pour chaque sérologie positive découverte, le médecin qui a prescrit la prise de sang doit informer l'Institut de veille sanitaire, l'INVES, ce qui lui permet de publier les nouvelles sérologies par année, selon le sexe, selon le sexe de la personne et son lieu de résidence. Par rapport à ce graphique qui vous est projeté, on s'attarde sur le chiffre de 2005, le plus récent, et ce chiffre nous apprend deux choses. C'est le nombre donc, de nouvelles découvertes de séropositivité VIH. Il diminue. Et celui de 2005, entre 2003 et 2015. Et en 2015, on constate qu'environ 6 000 personnes ont découvert leur séropositivité. Et parmi ces 6 000 personnes, 43% sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et un tiers, 31%, sont des personnes nées dans un pays d'Afrique subsaharienne.
Je vais peut-être juste... Oui. Il y a un truc, par contre, il faut pas... Non, il faut se fier. Mais vous voyez, il y a une baisse ici qui est importante. Et probablement que... il y a plus, cette courbe, elle représente peut-être le nombre de nouvelles infections, mais aussi des changements dans le dépistage. Donc, si les gens se dépistent plus, ça peut augmenter. S'ils se dépistent moins, ça peut diminuer. Donc, je crois que ça va être une leçon. Il faut toujours faire un petit peu attention à ces indicateurs de santé parce qu'ils ne racontent pas toute l'histoire. Donc, on va en revenir.
Donc, comme je vous disais, l'objet de ce débat, c'est d'échanger entre nous. Et donc, ce n'est pas un séminaire. On ne va pas vous exposer un savoir, loin de là, mais c'est beaucoup plus d'échanger entre nous. Et donc, pour faciliter ce débat, ces échanges, on a prévu notre organisation de la manière suivante. On va poser 3 questions. Et pour chacune des questions, on va bénéficier du témoignage d'un des hommes qui a participé à cette campagne de prévention qui a fait polémique. Et ensuite, pourra s'engager un débat entre nous par rapport à cette question et par rapport à ce premier témoignage. Donc, la première question qu'on vous invite à débattre, c'est une campagne de communication pour tous. Et on va, dans un premier temps, je vous propose d'écouter le témoignage.
À la base, ça devait être une campagne qui devait être diffusée que dans les lieux spécialisés. Donc, c'est une campagne qui est financée que dans les laboratoires, pas les laboratoires, mais les centres de dépistage,
d'accord,
aussi les laboratoires et tout. Les lieux médicaux,
ouais.
Et ça ne devait pas être aussi public que ça.
D'accord.
Et il s'est avéré qu'on a fait le shooting en septembre et que finalement, en novembre, le ministère de la Santé avait annulé cette campagne au départ. Et ils l'ont ressorti après. Et ils l'ont sorti en pleine régionale. De cette campagne, ça a été presque un scandale d'État, parce que ça a été traité pendant 2 semaines sur tous les journaux télévisés en France. Donc voilà. Et donc du coup, ils ont, en sortant cette affiche, le ministère de la Santé a décidé de la diffuser partout. Donc on s'est retrouvé placardé sur des abribus, sur des autoroutes, partout. J'ai fait cette photo qui est finalement toute banale. C'est un couple d'hommes qui s'aiment et qui s'enlacent. Et finalement, le photographe, il a photographié ça. Et nous, on avait qu'à être naturel en fait devant son objectif. Et après, c'est, si tu veux, c'est plus dans nos mains, ça nous appartient plus. La photo part, et puis après, ils mettent les textes et tout. Et puis, du coup, la photo prend une autre dimension. Et puis après, elle prend une troisième dimension, qui est l'interprétation de tout le monde, de chacun. Pour moi, c'est presque un instant volé pour la bonne cause.
Donc voilà, une première question, une campagne de communication pour tous et un premier témoignage. Et si vous voulez, je commence le débat. À savoir que ce qui me semble intéressant dans ce premier point, c'est le public qui est visé. En effet, c'est une campagne qui est dite ciblée. Vers ce qu'on appelle aussi une population cible. On pourrait même s'interroger sur cette terminologie qui est la population homosexuelle, puisque si vous vous souvenez des données épidémiologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est une des populations cibles de... C'est une des populations cibles face aux nouvelles infections du VIH. Il est donc nécessaire de renforcer la communication, de renforcer la prévention auprès de ce public. Ensuite, je trouve que ce qui est intéressant, c'est où cibler ce public. Et là, on voit bien dans le témoignage de notre enquêté, c'est qu'au début, voilà, il y a eu une discorde. Au début, c'était dans les lieux spécialisés. Donc, il a évoqué de prévention, de dépistage, de lieux médicaux. Un autre enquêté m'a parlé aussi que ça devait être notamment diffusé dans les bars au Marais et que finalement il y a eu de vives discussions avec le ministère en disant écoutez, tous les gays ne sont pas dans le Marais. Et étant donné qu'on cherche à faire venir les gens dans des centres de dépistage, il ne faut pas cantonner la campagne que dans les centres de dépistage. D'où ces pourparlers qui a amené le ministère à autoriser une publication plus large de cette campagne, de ces affiches, dans des lieux, qui ne sont pas considérés comme cibles.
Je crois que le terme qu'ils utilisent, c'est des lieux de convivialité gay. Convivialité, c'est joli, non ? C'est aussi les saunas, les machins... moi, ce que je me rends compte dans le témoignage de... On ne dira pas son nom, mais je me rappelle, parce que tu me l'avais... Voilà. C'est que, si vous regardez bien les affiches, c'est écrit ici « Préservatif, PrEP, TPE, TASP, dépistage ». Et je vous parie que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est le PrEP, le TASP, la TPE. Donc, on voit déjà que c'est très ciblé à un public qui est déjà au courant. En fait, qui sont, juste pour vous dire, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, donc la prise d'un médicament, de deux antirétroviraux de façon régulière, ce qui démontre la contamination. La TPE, c'est le traitement post-exposition, un genre de morning after pill. Et puis le TASP, c'est le treatment as prevention, c'est donc la politique de traiter systématiquement toute personne séropositive, quel que soit son CD4, sachant que en haut d'un certain niveau d'immunité qu'on mesure avec les CD4, il n'y a pas d'indication médicale de traitement, mais en fait on traite la personne pour la rendre non contaminante. Alors en fait les affiches sont déjà très ciblées. Mais comme il le dit, on a changé d'avis et on a donc diffusé ces affiches beaucoup plus largement, ce qui a suscité les controverses dont on va parler. Et puis, je ne sais pas, tu avais une question en particulier que tu voulais abordés ici?
J'en ai trois même.
Oui, allons-y.
Donc du coup, ben, c'est une très bonne transition sur, sur la deuxième. C'est en effet cette campagne de communication qui était quand même ciblée, qui a été diffusée dans, plus, dans des lieux publics. Quelle a été la réception? Est-ce que ça a été une réception individuelle, une réception collective? Et en raison de la polémique que ça a généré, on pourrait dire les deux. Ça a été à la fois une réception individuelle, mais aussi polémique, comme on va le voir.
Ouais, c'est complètement vrai, en fait.
D'accord.
Et je pense que c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a rien, quand tu regardes vraiment les photos, il n'y a rien. Sauf que les textes sont crus et que ça appelle en plus un truc de prévention sexuelle. Donc du coup, ça appelle l'imagination et il y en a qui n'ont rien à foutre et d'autres... Après, je pense aussi que c'est par rapport à... Chacun se place différemment aussi par rapport à la sexualité de façon générale. Et ça prouve bien aussi qu'il y en a qui sont complètement à l'aise avec, avec son corps et il y en a d'autres pas du tout et que... Et c'est très drôle en fait. Enfin, pour moi, c'est drôle d'être aussi. D'avoir pu interloquer en fait. On est quand même dans une société aujourd'hui, de moins en moins, plus que les jours passent, mais on est quand même dans un deep tie hétérosexuel. Et que ça met effectivement en lumière une sexualité qui existe, mais qui n'est pas mise en lumière.
Qui n'est pas
mise en lumière. Donc là, si tu veux, juste ça avec s'aimer, s'éclater, s'oublier, si tu veux, tu mettrais deux hétéros, ça aurait pas le même truc. Tu verrais ce truc-là et puis tu passerais ton chemin. Là, le fait que tu sois des homosexuels, et voilà, je pense que c'est ça qui a dérangé. Moi, j'espère que ça a pu toucher toutes les communautés. Et j'espère vraiment qu'au moins il y en ait un en France qui, à un moment donné, se soit dit bon bah c'est pas grave si je suis homosexuel ou oui, je vais me protéger.
Par contre, il y a un truc peut-être que je peux introduire ici, c'est que une des choses qu'on voulait mettre en lumière, c'est les paradoxes du ciblage, on va le dire, entre guillemets. Et là, il y a un problème assez, chargé, ou loaded, on dirait en anglais, mais assez chargé en France, qui est la question des statistiques de la race. Et nous avons aussi la question de la construction de l'identité par les statistiques étatiques en France est chargée par justement une idéologie républicaine d'être aveugle, etc., que vous connaissez très bien, qui fait l'objet de débats dans cette maison entre autres Michel Viorca et Hervé Lebras. Et là, je voulais qu'on réfléchisse deux secondes sur cette catégorie de risque. Donc le risque, dans ce cas-ci, comme ce que Laure a démontré avec les statistiques, est un risque épidémiologique. C'est-à-dire qu'on attribue un critère, en fait, on attribue un critère qu'on va recenser, comme dans le recensement, en quelque sorte, et ce critère permet de générer des statistiques. Et quelque part, je pense qu'on pourrait se poser la même... on le fait pas, mais ça pourrait être intéressant de se poser la même question. Est-ce que les mêmes arguments qui valent pour ou contre la collecte de statistiques racialisées en France vaut pour la collecte de statistiques dans le cas du VIH? On a des statistiques sur l'origine, donc hors Union européenne ou à l'intérieur de l'Union européenne et sur l'orientation sexuelle. Sauf que le problème, c'est que l'identité, ce n'est pas la même chose que la confession statistique, si vous voulez, de dire qu'on a un comportement et ne chevauche pas nécessairement parfaitement l'identité sexuelle. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on a une campagne qui est très, très, très ciblée sur une identité. Vous les voyez, vous voyez dans le témoignage. Des gens, il y a vraiment une identité qui s'exprime à travers ça, et l'identité qui s'exprime à travers ces images qui sont, je pense, présument un certain confort, une certaine familiarité avec des hommes qui sont affectueux entre eux. Et troisièmement, une identité qu'on voit maintenant de façon très médicale, affirmé à travers ces interpellations à des interventions que on ne connaîtrait pas si on n'était pas vraiment dans cette communauté. Et là, le paradoxe pour moi, c'est que il y a des gens certes qui sont déjà dans cette identité, qui se reconnaissent, qui se sentent interpellés dans le sens d'Althusser, qui se sentent interpellés par ces affiches et par ces messages, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui ne se reconnaissent pas nécessairement, y compris des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc là, ce qui m'a intrigué, je pense, et avec Laure aussi, dans ces affiches, c'est comment ces affiches construisent un interlocuteur à partir de données épidémiologiques.
Je pense que si ça peut permettre, déjà pour moi, il y a du bon et du mauvais dans tous les discours, qu'ils soient extrémistes, centristes, gauchistes, droitiers, pour moi il y a du bon partout. Ce que j'ai aimé déjà, dans ce mini-scandale de 2 semaines, parce que ça a duré 2 semaines, et après les rédactions sont passées à autre chose, ce que j'ai aimé, c'est le fait que, malgré tout, il y a eu une réflexion en fait sur l'homosexualité. Et ça a été presque, finalement, les gens ont pu exprimer leur opinion par rapport à ça, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit extrémiste. Moi j'ai adoré ça.
Donc là, c'est cet extrait, justement, notre enquêté, il a beaucoup accentué sur la polémique qu'elle a suscitée, à la fois polémique politique, mais aussi au sein de la société. Et c'est notamment Twitter qui a permis de se rendre compte de l'engouement qu'il y a eu, tant en termes politiques qu'en termes de la société. Là, je vous fais diffuser. Voilà. Je vais en prendre une. Excuse-moi. Un échange de tweets qu'il y a eu, justement, entre ces différents interlocuteurs, où certains demandent le retrait de cette campagne de prévention. Et d'autres qui, justement, s'offusquent de cette demande, et cette demande a été notamment portée par des politiques. Et donc là, on voit bien, par exemple, que l'opposition a été faite par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, on peut lire ensemble, dégradation d'affichage de prévention du sida. Après le maire donné, celui d'Angers retire l'affiche de prévention, épidémie de connards moyenâgeux. Ensuite, on voit un autre échange, par exemple si on prend le dernier, campagne de prévention militant LGBT, un minimum de décence dans l'espace public ne serait pas de trop. Et Marisol Touraine qui répond avec son compte Twitter, pour la santé publique et contre l'homophobie, je saisis la justice après la censure par certains maires de la campagne de prévention du VIH. Donc là, c'est ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, cette campagne a bousculé elle a bousculé et elle a fait, elle a bousculé non seulement sur l'homosexualité, mais encore une fois, comme on disait, ou sur les lieux où, où ces affiches ont été, ont été présentées.
Alors, juste dire un truc. Alors, moi, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu ensemble là-dessus, parce que c'est sûr qu'à première vue, on reprend les thèmes assez classiques depuis les années 80, où il y a une espèce de militantisme qui veut autour d'une sexualité affranchie, libérée, discutée, et qui est sous couvert avec des données à l'appui de la santé publique. Et on a de l'autre côté un discours moralisateur dont le souci, et ça on l'a vu avec la pilule anticonceptionnelle, et il n'y a pas de pilule anticonceptuelle ici, ce serait une catastrophe, où tout ce qui a trait à l'expression dans le sens d'en parler ou de dévoiler la sexualité va inciter les gens à l'immoralité. Hein. C'est une vieille histoire de je ne sais pas quand, je pense depuis toujours. Mais là, ce qui nous a frappé dans cette campagne, c'est qu'il y a un autre registre qu'on peut imaginer qui est peut-être plus visible avec justement ces médias, Twitter et tout ça, qui est que, tout à l'heure je disais, ce message, il interpelle un sujet connaissant ou au moins tolérant, en quelque sorte. Mais il produit aussi le sujet intolérant, le connard moyenâgeux, entre guillemets. Donc il produit des positions, il polarise quelque part. Et c'est ça qu'on voit dans le débat. Enfin, le débat s'exprime autour de l'ancien débat moralisateur versus libéré. Mais je pense qu'il y a une autre grille de lecture qui peut être intéressante, sur laquelle on peut réfléchir, qui est celui que il produit une hiérarchie entre ceux qui savent, qui sont cosmopolites, qui sont tolérants, qui sont scientifiques, et ceux qui ont des réactions plutôt, qui se sentent invalidés dans leur réaction moralisateur. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous le voyez comme ça ou pas?
J'avais juste une question. Est-ce qu'on a des études post-campagne sur l'impact que ça a eu négativement ou positivement? Est-ce que justement c'est sorti du cadre d'une communauté spécifique, ou est-ce pas, déjà il n'y a peut-être pas les moyens de quantifier parce qu'il n'y a peut-être pas les enquêtes ou les indicateurs suffisants, mais est-ce que ne serait-ce que en discutant avec les concepteurs de la campagne, le photographe ou les personnes qui ont choisi les différents verbes pour qualifier chaque photographie, est-ce que, a posteriori, finalement, est-ce que ça a servi la prévention ou pas?
Alors, il n'y a pas eu d'évaluation de cette campagne, parce que c'est quasi impossible à faire. Alors, il y a trois niveaux où on peut imaginer évaluer. Alors, il y a le niveau santé publique, incidence du VIH. Alors, évidemment, on peut pas, s'il y a trop de choses qui sont en train de se passer en même temps. On peut évaluer sur la réception des personnes individuelles. Alors, il n'y a pas eu d'études post-campagne, mais j'imagine quand ils ont fait... Est-ce que tu sais si quand ils ont fait élaborer la campagne, ils ont dû faire des focus groups, des choses comme ça, ils sont juste allés... Ça, on ne sait pas. Hein. Et puis, au troisième niveau, il y a tout ce qui est médiatique. Donc ça, c'est l'évaluation qu'on a, objectivement. C'est ce que ça a produit au niveau médiatique. Et puis, comme disait, je me rappelle plus qui, there's no such thing as bad publicity, parce que tout ce qui fait parler, ça fait diffuser le message. Donc, c'est plutôt une réussite, je dirais. Alors, pour vous, est-ce que vous avez l'impression que c'est une campagne qui produit une séparation entre ceux qui sont savants et ceux qui ne le sont pas, enfin. Ou vous êtes tous du côté cosmopolite et...
Moi, je me souviens d'avoir débattu avec des amis, et en fait, je pensais qu'ils étaient choqués parce qu'on voyait des homosexuels.
et en réalité, ils m'ont dit qu'ils étaient choqués parce qu'on voyait des homosexuels associés à l'idée du sida. Que ça leur plaisait pas qu'on fasse cet amalgame.
D'accord. Comme quoi les temps changent.
D'ailleurs, qu'on stigmatise la communauté homosexuelle.
Oui.
Il me semble, excusez-moi, qu'il y a eu une campagne également qui ciblait cette fois-ci la communauté africaine. Je me souviens de messages où c'était une femme qui disait à son compagnon, mari, écoutez, un autre pays, tu reviens, bah, écoute, tu fais le test, tant que tu n'as pas fait le test. Enfin, c'est une campagne qui a eu lieu. Alors, est-ce que cette campagne ciblée a suscité les mêmes réactions? Et donc là, on peut comparer, est-ce que les réactions dans un sens ou dans un autre visaient plus particulièrement, enfin portaient plus particulièrement sur le fait que cette campagne concernait les homosexuels, ou est-ce que c'était le VIH, puisqu'on a des éléments de comparaison, puisqu'il y a eu une... Alors, comme je ne connais pas bien le sujet, je ne sais pas si la campagne destinée à la communauté africaine était de plus grande ampleur, s'il y avait plus de messages, si ça avait été plus diffusé, enfin il y a eu une campagne, enfin, j'ai mémoire d'avoir entendu ces messages. Donc est-ce qu'elle a suscité les mêmes réactions, la même ampleur dans le... parce que ça peut peut-être donner des éléments... Enfin, là, je parle que de la réaction de l'opinion, hein. Enfin, et des politiques, et des maires, et de l'opinion publique. Hein.
Il y a des campagnes de prévention destinées, en effet, à la population originaire d'Afrique, et notamment d'Afrique subsaharienne, puisque, encore, selon les données épidémiologiques, c'est une autre population cible. Et donc, c'est vrai qu'il y a déjà eu des campagnes de prévention, et puis... Il y en a à venir, puisqu'on va le voir par la suite, puisqu'aussi cette campagne, ce qu'elle met en évidence, c'est une nouvelle offre de prévention qui est la PrEP, mais on va revenir après. Mais c'est vrai que, en tout cas, je n'ai pas souvenir que cette campagne à destination d'une autre population cible ait été diffusée au même moment que cette campagne-là. Ça n'a pas été en termes de temps, d'accord ? Mais après, en effet, donc il n'y a pas eu de polémique, mais je ne sais pas non plus si elle a été diffusée et c'est ce que vous disiez, de la même, voilà, dans les mêmes espaces et dans la même dimension. En effet, sur ça.
Ce qui est sûr, c'est que ça ne choque pas les homos. Comme disait notre interlocuteur, il n'y a rien de choquant à se faire, sauf peut-être chez des plus jeunes, parce que vous êtes plus jeunes, et vos amis aussi, j'imagine, mais on a l'habitude d'être interpellé en tant que homo autour des questions du sida. Ça ne nous choque pas. Peut-être pour les jeunes, peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé, et ça va dans le sens des enquêtes de prévention, etc. Et autour, effectivement, chez les jeunes, je ne sais pas en France, mais en tout cas en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de jeunes qui refusent d'être identifiés à une catégorie, même de genre. Hein. Donc la fluidité du genre, tout ça, c'est des choses qui touchent beaucoup les moins de 25 ans ou un peu plus jeunes actuellement. Mais pour les personnes... originaire pour les personnes, ils s'appellent ici les afros, il y a quelque chose de choquant d'être interpellé autour de cette catégorie de risque. Ceci étant dit, je crois qu'il y a une statistique que Laure avait présentée hier quand on était à Bruxelles, qui est très importante, c'est que on n'a pas de statistiques de type recensement sur la population vivant en France, sur l'origine et sur la race. Ça, on sait très bien. Par contre, on a des enquêtes qui demandent le pays d'origine, et les statistiques du ministère de la Santé donnent, comme je disais tout à l'heure, l'origine soit née en France, née en Europe, née hors Europe. Mais il y a eu des enquêtes maintenant épidémiologiques qui ont collectionné des statistiques sur l'origine. Et on sait qu'effectivement, le groupe où il y a le plus de nouvelles infections sont des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, que la majorité de ces gens-là se contaminent en France et pas en Afrique, et que ces contaminations, c'est très simple à expliquer, c'est pas lié au comportement, c'est lié au fait que votre pool de partenaires sexuels sont déjà fortement contaminés parce qu'ils viennent de pays où il y a beaucoup de VIH. Donc c'est un effet mécanique ou structurel, on dirait en sociologie. Donc effectivement, d'interpeller des Africains ou des personnes d'origine africaine sur la catégorie de leur africanéité qui serait montrée dans cette affiche. La dame, je sais pas, elle a un pagne, elle prépare un riz, elle parle à son mari. Ça ne correspond pas, en fait, ça correspond à la logique d'identité, mais ça correspond pas à la réalité sociologique de comment les gens se contaminent. Et ça, on sait très bien, on se contamine pour les raisons structurelles que je vous ai données, que si vous arrivez d'un pays où il y a beaucoup de VIH, mais que vous êtes donc votre réseau social va se construire autour de gens qui sont originaires du même lieu, à l'église ou ailleurs, vous êtes plus exposé, sans même avoir un comportement différent que n'importe quel. Et puis en plus, on a, et ça c'est l'étude parcours d'Annabelle de Gré-Dulot qui le montre, il y a la précarité. Donc il y a le fait que ces gens-là sont beaucoup plus précaires, sans papier, etc. Plus logement, surtout logement, qui joue. Alors, c'est une longue réponse, mais je peux vous dire que j'avais fait une campagne comme ça à Montréal, ciblant, encore une fois, les personnes d'origine haïtienne, qui est encore une fois une catégorie épidémiologique à risque. Et ça a été un flop total, parce que finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en ciblant, et je crois que c'est la même chose avec cette campagne-là, quand vous interpellez les gens, quand vous ciblez et vous les interpellez sur une catégorie d'identité, donc je me reconnais comme faisant partie de ce groupe-là, en fait, vous attirez les gens qui sont déjà très sensibilisés. Et donc, notre campagne, où on a fait des pubs dans les radios communautaires à Montréal-Nord, enfin dans des quartiers où il y a beaucoup de gens de la diaspora haïtienne, venaient les gens qui étaient déjà sensibilisés. Je me rappelle très bien, à un moment donné, il y a une jeune femme qui vient pour son dépistage. On était dans un centre communautaire, on faisait des prises de sang, des tests rapides. Et je lui dis, en tant que médecin, on fait un petit questionnaire, et je dis, mais est-ce que vous avez déjà eu, vous avez combien de partenaires, vous avez eu combien de partenaires ou de relations, enfin, on faisait une petite enquête comme ça. Elle dit, ah non, j'ai jamais eu de relation sexuelle. Mais elle venait parce qu'elle était haïtienne. Vous voyez, donc c'est tout ça la difficulté quand on part du risque épidémiologique à la subjectivation, il y a beaucoup d'étapes par là, et puis des fois on se perd.
La polémique sur cette campagne a fait passer sous silence le message de prévention, et notamment le message de prévention grâce à une nouvelle offre de prévention qui est la PrEP. Et donc là on peut passer, excuse-moi, qui est la PrEP et la création aussi d'un site internet où toute personne peut trouver des informations sur le VIH et sur l'ensemble des modes de prévention. Sexosafe.fr, qui a été développé par Santé publique France, d'ailleurs. Et donc, et c'est ça aussi dont faisait référence notre enquêté, à savoir que voilà, on a tellement parlé d'autre chose que de prévention au risque de s'infecter, qu'on en a oublié de parler des modes et notamment des nouvelles offres de prévention qui est la PrEP et de ce nouveau site. Donc là, le temps passe, donc on va peut-être passer à la dernière partie.
Donc. L'enquêté, c'est lui, en fait, donc qui livre son témoignage sur l'affiche. Et c'est très drôle parce que Laure me racontait son terrain. Et puis pendant 3 heures, elle m'a bazardé telle ONG avec des acronymes et gens et machin et tout ça. Et à un moment donné, elle commence à me parler de Michel. C'est pas son nom. Et là, je dis, mais Michel, c'était quelle association, quelle ville? Elle dit, non, non, Michel de l'affiche jaune. Donc, si vous entendez Michel. Mais parce qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, mais ce qui est intéressant dans le témoignage, on va l'appeler Michel. C'est qu'il est très sophistiqué sur ce que cette affiche doit faire, ce qu'elle fait sur la réception. Donc on voit une réflexivité très très forte on continue. Oui.
Vous pourriez juste éclairer ma lanterne sur ce qu'est la PrEP en termes de prévention.
C'est
pré-exposition.
On a une vidéo là-dessus.
Ah, d'accord.
Ça vient. On voulait finir avec ça. Mais la PrEP, c'est juste pour dire, c'est que c'est la découverte de cette nouvelle forme de prévention qui est en train de peut-être pour donner quelques éléments de contexte, qui est en train de driver ou de pousser ces campagnes de prévention. C'est qu'on a quelque chose de nouveau. Et donc, cette nouvelle chose, on veut la faire adopter. Donc, on cible. Mais on cible les gens, en fait, le paradoxe, qui sont déjà au courant. Alors, c'est tout le paradoxe de la prévention aujourd'hui. C'est comme si vous sortez un nouveau iPhone. Des gens qui vont l'acheter, c'est des gens qui ont déjà des iPhones. En général, ils veulent, c'est les early adopters, des gens qui sont déjà technologiquement sophistiqués. Donc, on a créé, si je peux m'exprimer ainsi, on a créé en France, au Canada, aux États-Unis, enfin dans les pays du Nord et de plus en plus dans les pays africains, des gens qui sont une vanguarde de la prévention, des gens qui sont très au courant et qui adoptent les nouvelles techniques. Donc, le défi, c'est de comment atteindre les gens que ça pourrait servir. Un exemple que je peux donner, en Afrique, on veut offrir cette nouvelle modalité de prévention aux prostituées, travailleuses du sexe. Mais le problème, c'est que, je vais dire ça comme ça, toutes les travailleuses du sexe sont déjà dans des programmes de prévention. Donc, elles ne sont plus à risque du VIH comme elles l'étaient avant. Donc, cette nouvelle technique n'est peut-être pas très utile chez elles.
La PrEP, c'est quoi? La PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention contre le VIH. Elle s'adresse à des personnes non infectées par le virus. Il s'agit de prendre des comprimés avant l'exposition à un risque sexuel. Elle est prescrite par un médecin dans le cadre d'un suivi médical spécifique. Elle est disponible en France depuis novembre 2015. On cherche à déterminer si la PrEP pourrait contribuer à diminuer le nombre de nouvelles infections chez les migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Cette population est particulièrement touchée par le virus. L'étude Parcours a montré que l'épidémie VIH dans cette population n'était pas seulement liée à la situation épidémiologique de leur pays d'origine, mais aussi à des contaminations en France. On estime que 35 à 49% des personnes nées en Afrique subsaharienne et suivies pour un VIH en Île-de-France ont été infectées après leur arrivée. L'exposition au risque sexuel est liée à la précarité et aux difficultés structurelles rencontrées lors de l'installation en France. Nous avons donc conduit une étude auprès de cette population en Île-de-France dès 2016. Cette étude est financée par l'ANRS. Elle a montré qu'aucune des personnes rencontrées n'a entendu parler de la PrEP. Néanmoins, après explication, c'est un moyen de prévention qui leur semble tout à fait envisageable à utiliser. La question qui nous intéresse à présent est comment favoriser l'accès à la PrEP chez les migrants originaires d'Afrique subsaharienne.
Alors juste pour peut-être dire quelques mots de plus, la PrEP, c'est un comprimé au moins 4 fois par semaine. En fait, il y a eu 2 études. Les Français, une étude franco-canadienne financée par l'ANRS, qui s'appelait Hypergay, qui a évalué ce qu'on appelle la PrEP sur demande, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, parce que les Français ont des rapports sexuels seulement le week-end. Et les Anglais ont fait une PrEP continue tous les jours parce que les Britanniques ont du sexe tout le temps. Et on a vu dans les 2 groupes qu'aucune, presque aucune personne qui prenait la PrEP a été contaminée, alors que dans les groupes qui ne prenaient pas, 10% ont été contaminés lors de l'étude. Donc, ça nous permet de dire qu'on a une prévention efficace quasi à 100%. C'est presque comme un vaccin, si vous voulez.
C'est des antirétroviraux.
C'est des antirétroviraux, tout à fait. Alors, c'est ça qui nous... Et en même temps, on sait qu'il y a, comme on a vu sur le premier graphique, on a 6 à 7 000 personnes qui se contaminent en France tous les ans. C'est quand même beaucoup de monde. Et donc, on pense que cette technologie, cette nouvelle approche pourrait être un apport de plus dans la prévention. Voilà le contexte. Mais elle est, c'est en fait, dans la réalité, c'est très compliqué parce que comment, c'est qui ces 7000 personnes-là, en fait? Et c'est 7000, et c'est ça, on n'a pas des très bons chiffres, c'est, je veux dire, c'est qui, dans le sens anthropologique, qualitatif, comment ils se sont contaminés, pourquoi, etc. On a plusieurs phénomènes qui se conjuguent un peu partout. On a donc, chez les populations originaires d'Afrique, et on peut imaginer ailleurs, on a des situations de précarité, de vulnérabilité. On a, je pense qu'il faut le dire, hein, on peut se parler franchement. On a chez les jeunes homo, on a le sentiment que bon, finalement le VIH c'est pas si grave, c'est une maladie qui se traite avec un comprimé par jour. Les études montrent très bien qu'une personne contaminée par le VIH va vivre une vie aussi longue qu'une personne pas contaminée par le VIH, et même selon certains plus longue. Le paradoxe, c'est que quand on est séropositif, on est suivi. Donc, on a un suivi médical qui fait qu'on prévient les autres maladies qu'on ne prévient pas chez quelqu'un qui n'est pas séropositif parce qu'il est moins bien suivi. Donc chez les jeunes, on sent qu'il y a une dédramatisation, une banalisation. On a aussi quelque chose dont on a horreur de parler quand on est médecin, on a les questions d'amour et d'intimité. Et ça devient lourd, le port du préservatif à long terme. Donc on a aussi une évolution historique, dans le temps, les choses évoluent, les personnes vieillissent, les jeunes arrivent et ça change. Comment se construit la sexualité, l'amour et l'intimité. C'est pour ça qu'on a pensé à l'éducation du risque dans les deux sens. Donc l'idée, c'est qu'on doit éduquer les personnes à risque, mais il faut qu'on éduque, il faut qu'on revoie, qu'on re-renseigne comment on comprend le risque aujourd'hui, parce que les choses ont changé depuis. Donc dans le cadre de la PrEP, nous, on est sollicité... en tant que chercheur, pour aider la mise en œuvre de la PrEP. Mais pour vous raconter une petite anecdote, nos collègues de la santé publique sont des fois très réducteurs sur leur façon de comprendre le risque. Et j'étais dernièrement à une grande réunion, on m'a dit « il nous faut les sciences sociales ». Et j'ai demandé au grand chef pourquoi. J'ai dit « on n'arrive pas, il nous faut des jeunes gays et des travestis ». Donc les sciences sociales, ça revient à ça, aller chercher des gens pour les amener et les inclure. Or, c'est beaucoup plus compliqué. C'était un peu ce qu'on voulait partager avec vous.
Ça veut dire qu'on est dans le cadre d'un traitement pris en amont,
oui.
Prescrit par un médecin.
Tout à fait.
Donc ça oblige une population qui est déjà difficilement abordable de consulter avant même d'avoir dans l'idée d'avoir un rapport sexuel. C'est pas que ça me paraît difficile, mais ça va demander beaucoup de messages et pour attirer cette population à réfléchir à ça, consulter avant d'envisager des rapports. Quand on voit qu'il est souvent difficile chez des jeunes filles de penser à la pilule du lendemain quand il y a un rapport de l'autre, etc.
Mais je pense, Laure, tu devrais parler un peu des freins que tu as trouvés dans ton étude. Parce que...
Oui, donc comme on le mentionnait, une première étude exploratoire a été menée. Et donc, comme on l'a mentionné, les personnes que nous avons rencontrées, au premier abord, disent « bah oui, la PrEP, c'est intéressant, c'est un outil intéressant, parce que ça permet de se protéger, soi, mais également de se protéger éventuellement de l'autre qui est peut-être porteur du virus. » Mais aussi ensuite, deuxième temps de réflexion, c'est que les personnes nous ont dit, mais attendez, il y a différents, on voit aussi trois limites. La première, c'est l'accès. Parce que pour y avoir accès, il faut aller voir un médecin d'un service hospitalier spécialisé, voilà. Donc c'est vrai que l'hôpital, ça attire pas forcément. Et puis certains disaient...
Et on ne va pas à l'hôpital si on n'est pas malade.
Voilà. Et en plus, on ne va pas à l'hôpital si on est malade. Ensuite aussi, le fait de trouver, de pouvoir se voir prescrire la PrEP à l'hôpital, ben, interroge pourquoi on ne peut pas l'avoir auprès de son gynéco, pourquoi on ne peut pas l'avoir auprès de son généraliste. Donc, ça interroge sur le stade, est-ce que c'est encore un stade expérimental. Enfin, un autre frein qui a été mentionné, notamment par les femmes, mais si on oublie de prendre la pilule PrEP, est-ce qu'il y a la pilule du lendemain, un peu dans cette logique de comme la pilule du lendemain, la pilule contraceptive. Et enfin aussi, c'est par exemple les effets secondaires, mais aussi si c'est compatible avec une consommation d'alcool. Parce que par exemple, différents hommes nous ont dit « Ah ben oui, ça peut être intéressant de prendre la PrEP, notamment quand on va en soirée, bon, on s'amuse, on est un peu alcoolisé, puis on peut lâcher le préservatif, parce que l'alcool faisant, ou on est l'inconfort, ou on n'aime pas. Donc du coup, le fait de prendre la PrEP en amont, ça peut rassurer. » Et mais du coup, ils se sont posé la question, mais est-ce que c'est compatible, du coup, PrEP et alcool. Donc voilà, il y avait différentes questions. Oui.
Je voulais m'interrompre, parce que j'ai une question par rapport à l'étude. Si vous avez trouvé des personnes qui ont une résistance à prendre le PrEP en n'étant pas malade, parce que c'est le médicament qu'on prend quand on n'est pas malade, qu'on n'a rien. Donc j'ai entendu parler de ça une fois, mais je ne sais pas si c'était quelque chose
Tout à fait. Bien sûr, ça a été évoqué. Ça a été évoqué, en effet, prendre un médicament alors qu'on n'est pas malade, ça coule pas de sens.
Alors que pour les gays, c'est pas un problème. Parce que c'est une population très éduquée. Quand je dis gay, je veux dire les gays du Marais. D'ailleurs, c'est à toi qu'on avait dit, tu te rappelles, nous les Africains du Marais, c'est quoi ?
Non, nous, justement, sur la difficulté à prendre un médicament quand on n'est pas malade, ils disaient, mais beaucoup m'ont dit, en plus, nous, les Afros, dans le sens, pour nous, les Afros, c'est encore plus compliqué de prendre un cachet, et qui plus est, un cachet quand on n'est pas malade. C'est ce que l'Europe... Ouais. Donc,
de côté, oui. C'est de la prévention, c'est ça. C'est la définition, quoi.
Oui, mais c'est tout à fait... Mais, bah, ça dépend, parce que ce brosse...
C'est aussi un médicament, et c'est aussi de la prévention.
Alors nous, on va distinguer en médecine entre la prévention primaire, manger des légumes, faire du sport, etc., la prévention secondaire de type... moi, je suis hyper tendu, je prends un comprimé tous les jours, mais j'ai déjà un diagnostic, entre guillemets. Et là, il y a une nouvelle catégorie entre les deux qui a émergé depuis quelques années, c'est que depuis une quinzaine d'années, on traite maintenant le risque. On traite le cholestérol. Maintenant, on donne des statines pour des gens qui ont des niveaux de cholestérol normal. Parce que même si on est plus bas que normal, on réduit le risque. C'est très logique, parce que si vous vendez des médicaments, une fois que vous avez traité tous les gens qui sont malades, maintenant, faut qu'on traite les gens qui ne sont pas malades. Donc, on traite le risque.
Et Dieu sait si c'est discuté.
Pardon ?
Aujourd'hui, c'est...
Oui,
mais c'est... discuté.
Ben, je crois que dans cette maison, on peut tirer l'attention à un penseur qui s'appelait comment ? Marx ? Le capital. Il y a une logique, puis il y a des collègues qui travaillent là-dessus, il y a une logique capitaliste là, de marché et de plus-value qui est très, très, très claire.